Chers amis, bienvenue. Voilà. Voilà, nous remercions notre Dieu pour ce temps où nous avons pu le louer, le célébrer ensemble. Et comme l'a dit Marc, je veux aussi vous adresser mes salutations au Jésus-Christ et vous adresser mes meilleurs voeux dans le Seigneur. L'a dit l'apôtre Jean à Gaius, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, une bonne année à vous, bonne santé physique, mais aussi spirituelle. Et c'est là aussi le thème du message de ce matin, être en bonne santé, spirituellement parlant, une église en bonne santé. Et mon souhait, et notre souhait, c'est que notre église puisse être en bonne santé, en meilleure santé, puisque nous savons très bien que rien n'est parfait ici-bas, mais notre Seigneur est à l'œuvre. Et il veut que son Église soit glorieuse. Et donc, pour cela, nous devons le laisser agir dans nos cœurs et le laisser nous transformer comme il veut, de gloire en gloire. Et c'est vrai que très souvent, on peut poser cette question lorsque nous nous retrouvons, lorsqu'elle est pastorale ou bien les rencontres, l'une des premières questions que l'on nous pose, c'est voilà, comment vas-tu? Oui, ça va. Voilà. Et puis, pour les pasteurs, et comment va l'Église? Ça, c'est une des questions récurrentes. Comment va l'Église? Alors, on dit, oui, l'Église va bien, ou assez bien. Ou ça ne va pas très fort. Et donc, selon la situation, et même si elle va bien, moi, au fond de nous, on sait très bien qu'elle ne va pas si bien que ça, parce qu'il y a toujours moyen, il y a toujours des raisons aussi pour qu'elle progresse. Mais le Seigneur veut que notre Église, que son Église soit en bonne santé. Et chacun doit avoir à cœur de tout faire pour cela. Et pour qu'une église soit en bonne santé, il faut que chaque membre soit en bonne santé. L'église, c'est un corps composé de membres. Et l'apôtre Paul dit que lorsque membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Lorsqu'un membre est honoré, ben c'est l'Église, c'est tout le corps qui se réjouit aussi avec. Voilà, que durant cette année, Dieu continue son œuvre dans nos cœurs pour que nous soyons en meilleure santé et que notre Dieu soit glorifié. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27, l'apôtre Paul, il encourage les maris à aimer leur femme. Il dit comme Christ a aimé l'Église. Et je vous cite ce verset. « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Voilà quel est l'objectif du Seigneur, lui le bon berger. Il veut que lorsqu'il paraîtra, qu'il trouve cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et pour arriver à cela, il est nécessaire que nous nous laissions transformer par son esprit pour être semblables à Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est le Seigneur, dans Romains chapitre 8, il rappelle cela, que Dieu nous a choisis pour que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Et dans 2 Corinthiens 3, verset 18, il dit « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Une église en bonne santé est une église où l'Esprit de Dieu est continuellement à l'œuvre dans les cœurs, opérant les transformations nécessaires pour qu'elle ressemble donc de plus en plus à Christ. Et donc la responsabilité de l'église est de tout faire pour rester en bonne santé. Mais malheureusement, par manque de vigilance, une église qui était en bonne santé peut être gravement malade. Peut être gravement malade au point même de mourir et de disparaître. Un peu à l'image de l'église d'Éphèse, à qui le Seigneur Jésus demande de se souvenir d'où elle est tombée et de se repentir. Cette église d'Éphèse était une église au départ en bonne santé. Et donc lisons ce que dit notre Seigneur à cette église à la fin du premier siècle. Dans Apocalypse chapitre 2, nous lisons les versets 1 à 7. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu as trouvé menteurs, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Vous voyez donc cette église d'Éphèse, fondée par Priscille Aquilas, et que Paul a laissée donc à Éphèse à la fin de son deuxième voyage missionnaire, donc a été affermie par l'apôtre Paul, la Bible nous dit, lors de son troisième voyage. Cette église a bénéficié de son enseignement pendant 3 ans, il est dit dans Acte 19, Acte 20. Et après, donc, c'est Timothée que l'apôtre Paul va demander de rester dans cette église, puisqu'il y avait certaines fausses doctrines qui commençaient à entrer dans l'église, et il demandait à Timothée de faire taire ceux qui sèment ces mauvaises paroles. Et donc Timothée était là pour affermir cette église, remettre en ordre ce qui devait être mis en ordre. Et puis, après, beaucoup pensent que la première lettre de l'apôtre Jean est aussi adressée à cette église d'Éphèse. Et donc, c'est à cette église aussi que le Seigneur Jésus s'adresse pour qu'elle se repente d'avoir abandonné son premier amour. Cette église était en bonne santé au départ et tombée malade à cause du venin, des mauvais enseignements qu'elle pouvait recevoir et malgré les avertissements. Et à la fin du premier siècle, le Seigneur lui dit « Tu as abandonné ton premier amour. » Et donc, l'amour de cette église pour son Seigneur s'est altéré avec le temps. Et le Seigneur Jésus reprend son église, reprend cette église et lui dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et donc là, le Seigneur lui rappelle à cette église que, voilà, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Le Seigneur attend visiblement que cette église en bonne santé reste en bonne santé. Et pour cela, il dit à cette église, souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi quand au tout début tu avais mis ta foi en Jésus. Souviens-toi au tout début du zèle que tu avais. Lorsque tu as fait cette rencontre personnelle avec moi. Souviens-toi de ta foi qui était vraiment forte. De l'amour que tu manifestais pour tes frères et sœurs. Souviens-toi de tout cela. Souviens-toi de tes débuts. Souviens-toi de ces premières années où tu es devenu chrétien et que tu vivais ta vie chrétienne zélée pour ton Seigneur. Souviens-toi. Et avec le temps, cet amour s'est altéré. Et le Seigneur dit, repens-toi maintenant. Repens-toi de ce que tu as abandonné, ces choses que tu faisais avant et dont tu savais que c'était bon. Repens-toi. Et recommence à faire ce que tu faisais et dont tu savais que c'était bon. Pratique ces premières œuvres. Mets-toi à la disposition de ton Dieu pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi, comme tu le faisais au tout début. Pratique ces premières œuvres. Retrouve ce zèle que donne l'Évangile. Retrouve cette communion que tu aimais tant avec tes frères et sœurs et que avec le temps ça s'est altéré. Tu ne voulais plus, tu ne voyais plus la nécessité, tu ne voyais plus ce besoin d'être avec les autres. Pratique tes premières œuvres. Alors le Seigneur dit, si tu refuses d'obéir, si tu refuses de te repentir, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Il dit, à moins que tu ne te repentes. Le chandelier représente donc l'église locale d'Éphèse. C'est ce que le Seigneur explique à Jean au chapitre 1, verset 20. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Et d'après certains commentaires, il dit qu'après le cinquième siècle, l'Église et la ville d'Éphèse connurent un déclin. Et depuis le XIVe siècle, la région immédiate est demeurée inhabitée. Donc, avec le temps, on voit que cette église a fini par disparaître. Visiblement, il n'y a pas eu de repentance. Et c'est là le danger, frères et sœurs, pour toute église. Toute église locale qui abandonne son premier amour, avec le temps, elle finit par disparaître. Et ce qui fait la force d'une église, ce qui fait qu'elle va durer dans le temps, c'est qu'elle reste attachée à son Seigneur, fidèle à sa parole, et qu'elle reste en bonne santé. Et donc le Seigneur dit, un peu comme l'apôtre Paul le disait donc aux Éphésiens, en son temps, « Réveillez-vous, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller pour ne pas mourir. En tout cas, que le Seigneur nous donne à vouloir être toujours en bonne santé. Et pour pouvoir être en bonne santé, ce qui est sûr, c'est que il faut faire attention à son alimentation et il faut pratiquer une activité. C'est ce qu'on nous dit. Et si on fait attention, comme ça, on peut durer le plus longtemps possible. Mais si on se néglige, si on voilà, on mange n'importe comment, on boit n'importe quoi, etc., ben forcément, ça joue sur notre santé et notre durée de vie diminue. Voilà, si on veut que ça dure le plus longtemps possible, il faut faire attention à soi. Et en tout cas, c'est pareil pour les choses spirituelles. Si on veut durer le plus longtemps possible, si on veut être en bonne santé, il faut faire attention à son alimentation spirituelle et faire les activités nécessaires. Alors, dans la Bible, il y a d'autres églises où il est parlé donc des églises les églises malades, pardon. Par exemple, l'église de Corinthe. Ce n'était pas une église en bonne santé. Pourtant, cette église, fondée par l'apôtre Paul, lors de son deuxième voyage, au départ, était en bonne santé, comme toute église. Mais cette église était connue pour les divisions qu'il y avait entre les membres. L'un disait, moi je suis de Paul, un autre d'Apollos, moi de Pierre, etc. Il y avait la division dans cette église. Il n'y avait pas de discipline dans l'église. Chacun faisait ce qu'il voulait. Il y avait même une certaine tolérance par rapport à la vie de débauche de certains de ses membres. Le désordre régnait lorsqu'il y avait le culte. Chacun faisait ce qu'il voulait. Il y avait une forme de concurrence entre les uns et les autres, sur notamment les questions des dons spirituels. Ils privilégiaient certains dons et ils négligeaient d'autres ou ils méprisaient d'autres. Cette église n'allait vraiment pas bien. Et l'apôtre Paul dit, je ne vous parle pas parce que vous n'êtes pas spirituel, vous êtes charnel. Des personnes qui confessent Dieu mais qui se laissent conduire par la chair, leur vieille nature. Et ils se retrouvaient là et ils agissaient comme des gens du monde. Il dit même, des choses qu'on ne voyait pas dans le monde, on le voyait dans l'église. Une église malade. L'église de Galate aussi, qui a été fondée donc par l'apôtre Paul lors de son premier voyage, elle était donc composée essentiellement de personnes d'origine païenne. Et des faux docteurs venaient pour dire, voilà, il faut que vous devez vous faire circoncire pour pouvoir être réellement sauvé. Et cette église s'est laissée influencer par ces, ces fausses doctrines. Et lisez avec moi dans Galates chapitre 4. Alors, Galates chapitre 4, versets 8 à 11. Il dit, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Ces chrétiens se sont laissés entraîner dans des pratiques inutiles. Et au chapitre 5, verset 6, l'apôtre Paul leur dit, « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous? » Cette église qui, l'apôtre Paul dit, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Une église qui était en bonne santé, malheureusement à cause de ses fausses doctrines et en marchant selon la chair, parce que c'est ce que l'apôtre Paul dit par la suite, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Voilà, et cette église, au verset 14, 15, il dit, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Si vous vous mordez et vous dévorez. Une église malade qui, voilà, lorsqu'ils se retrouvent, au lieu d'être là dans la paix, dans la joie, parce que c'est ça le royaume de Dieu, il y avait la discorde, il y avait les disputes. Voilà. Alors que notre église ne soit pas comme ça. Que notre église soit une église en bonne santé et qui continue à progresser par la grâce de Dieu, où on se laisse non pas conduire par sa vieille nature, mais par l'Esprit de Dieu. Alors, on va voir l'exemple d'une église en bonne santé. Et comme, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais à chaque fois, on voit qu'au tout début, l'église était en bonne santé. L'église d'Éphèse, l'église de Galate, l'église de Corinthe. Et puis, malheureusement, avec le temps, ça s'est altéré. Alors, si nous voulons voir l'exemple d'une église en bonne santé, il faut aller au tout début. Et au tout début, c'est l'église primitive. Dans Actes chapitre 2. Acte 2, nous lisons les versets 41 à 47 pour voir ce que faisait cette église, cette première église. Et en tirer instruction pour nous, pour que nous puissions continuer à progresser, en tout cas faire ce qu'il faut pour pouvoir ressembler à cette première église, l'église de Jérusalem. Et être une église en bonne santé. Alors il est dit dans Actes 2, versets 41 à 47, Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce temps-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Une Église en bonne santé. Et donc, juste après la Pentecôte, Pierre va annoncer la parole. Et beaucoup de personnes, entendant cette parole, vont dire, voilà, mais que devons-nous faire? Repentez-vous et soyez baptisés. Et ceux qui acceptèrent sa parole donc furent baptisés. Donc ils ont obéi à ce commandement. Et il est dit que le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ces jeunes convertis, ces jeunes baptisés, ces 3000 personnes qui se sont ajoutées aux 120 de départ, dont il est fait mention au chapitre 1, il est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ou dans la version Semeur, il est traduit, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. Ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. Ils avaient besoin de connaître qui était le Seigneur Jésus. Et certainement, les apôtres utilisaient aussi l'Ancien Testament, mais ils leur parlaient surtout du Seigneur Jésus-Christ et donnaient les enseignements par rapport à ça. Une église en bonne santé, c'est une église où les membres aiment se retrouver pour étudier la parole. Alors, étudier la parole, c'est le dimanche, mais c'est surtout pas que le dimanche. Je dirais que le dimanche, on partage la parole, on est encouragé, voilà. Mais lorsqu'on étudie la parole, c'est en étude biblique. C'est pas pour rien qu'on dit étude biblique, hein. Et ces réunions que nous négligeons, frères et sœurs, sont là pour que nous puissions persévérer. Et ces nouveaux convertis, ces 3000 qui se sont ajoutés aux 120 qui étaient là, ont trouvé des gens qui persévéraient dans l'enseignement. Ont trouvé des gens qui étaient là et qui avançaient ensemble. Ils persévéraient dans la communion fraternelle pour montrer qu'ils aimaient être ensemble. Ils aimaient être ensemble physiquement. Maintenant, les gens, entre guillemets, se disent qu'ils sont ensemble, mais à distance. On suit le culte à distance. Mais être ensemble physiquement, c'est capital. C'est capital. Moi, lorsque je suis là pendant le temps de prière, je ne vois pas qui arrive et que j'entends prier telle sœur ou telle autre, j'ai dit, je loue le Seigneur parce que j'entends la voix d'une sœur, j'entends la voix d'un frère et je peux bénir Dieu parce que mon frère ou ma sœur est là. Lorsque vous êtes chez vous, devant votre écran, vous ne vivez pas ça. Nous nous édifions les uns les autres. par la lecture, par les prières, etc. Et frères et sœurs, ne négligeons pas cet aspect. Il faut que la présence lors des réunions doit être une priorité. Et chaque membre joue son rôle pleinement lorsqu'il est pleinement là et dans le corps et qu'il physiquement est présent. Ils aimaient partager avec les autres ce qu'ils avaient. Ils manifestaient donc leur piété, étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, il est dit. Et ces gens, ils vivaient dans la simplicité, ces chrétiens. Ils vivaient dans la simplicité. Ils faisaient les choses selon les besoins de chacun. Ils se retrouvaient pour la fraction du pain. Dans Acte, il est dit que le premier jour de la semaine, ils se sont réunis pour rompre le pain. C'est pour cela que nous nous réunissons le dimanche et que nous prenons la scène. Parce que c'est un moment important pour tout chrétien qui témoigne de notre reconnaissance à notre Seigneur. Nous ne voulons pas oublier ce qu'il a dû endurer à cause de nous. Et aussi, ça manifeste la communion fraternelle. Et persévérer aussi, il est dit, dans les prières. Et j'aimerais dire deux choses par rapport à cela. C'est que dans Actes chapitre 1, verset 14, il est dit que, alors le Seigneur Jésus, avant de partir, a dit donc à ses disciples de rester à Jérusalem en attendant ce qu'il a promis, le Saint-Esprit. Et donc acte 1, verset 12, je peux lire à partir du verset 12. Une fois que le Seigneur Jésus est reparti, donc les disciples attendaient donc le Saint-Esprit qui était promis, et puis ils attendaient aussi que le Seigneur revienne. Il y avait ces deux attentes, mais d'abord le Saint-Esprit. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et on voit là que ces disciples, donc là ils attendaient la venue du Saint-Esprit, et ça va se produire au chapitre 2. Mais ils ont décidé de persévérer dans la prière avec toutes ces personnes-là, ils étaient 120. Ils décidèrent donc de se réunir dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Et là je veux souligner que ces premiers chrétiens, ils avaient un lieu de rencontre où ils se donnaient rendez-vous. Ils étaient là en train d'attendre le Saint-Esprit. Après, ils l'ont reçu. Mais dès le départ, lorsque Jésus-Christ est parti, ils ont eu à cœur de se retrouver. Et ils se retrouvaient dans cette chambre haute, un endroit suffisamment grand où ils pouvaient tous se retrouver. Et donc, nous, c'est la salle de culte. Ici, c'est notre lieu où nous nous retrouvons pour prier. Ils décidèrent tous d'un commun accord de persévérer dans la prière. Et là, on voit que ce n'est pas un temps qui est imposé. On n'oblige pas les gens à venir prier. C'est quelque chose qu'on fait parce qu'on a envie de le faire. Il y a ce consentement mutuel. Et donc, on vient prier de bon cœur et non par obligation. Mais quel chrétien ne voudrait pas venir prier? C'est naturel de prier. Et notre frère disait tout à l'heure, pour le samedi, que c'était une réunion importante, cette réunion de prière. Mais si, c'est important. Ils se décidèrent de se réunir pour donc prier, je dirais, sans aucune distinction. Dans la liste qui est faite là, il y avait des hommes, il y avait des femmes. Donc, sans distinction de genre. Ils avaient décidé de se réunir pour prier, je dirais sans distinction de position aussi. Il y avait les membres de la famille de Jésus, la mère de Jésus, ses frères. Il y avait les autres disciples. Et là, ils disaient pas, il n'y avait pas un qui était mis sur un piédestal et puis les autres en dessous. Tous étaient là, ensemble, et priaient. Et puis, je notais aussi qu'il n'y avait pas de distinction au niveau de l'ancienneté dans la foi. Pour dire qu'il y avait ceux qui étaient là au tout début avec Jésus, qui ont accompagné Jésus pendant les 3 ans de ministère, et puis il y avait ceux qui sont arrivés après. Les frères de Jésus, par exemple, ils ne croyaient pas en Jésus avant, mais après la mort de Jésus-Christ, ses frères... ont mis, comme Jacques ou Jude, ils ont mis leur foi en Jésus et ils étaient serviteurs de Jésus-Christ, ils se disent eux-mêmes. Pour dire que pour se réunir, pour prier, ce n'est pas réservé à certains et pas à d'autres, hommes, femmes, qu'on soit jeune converti ou plus âgé, ou plus ancien. Quelle que soit la position, il n'y a aucune différence. C'est des enfants de Dieu qui se réunissent pour prier. Et je dirais, le seul point commun et la seule condition, si on peut dire, c'est qu'ils partageaient tous la même foi. Voilà ce qui les réunissait. Avant la Pentecôte, eux, ils avaient mis leur foi en Jésus, le Seigneur ressuscité. Et c'est ça qui était leur motivation. Tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière, puisqu'ils croyaient la même chose. Et ça, c'est important, parce que on entend maintenant des gens qui disent, voilà, mettons-nous à prier, et puis même si on ne croit pas la même chose, mettons-nous ensemble et prions. Toi, tu pries Marie, moi, toi, tu pries un tel et tel, mais mettons-nous ensemble, nous prions. Mais non. Ces premiers disciples, ils avaient cette même foi. Et après, et c'est là que je pense qu'il faut faire attention, lorsque le Seigneur va ajouter à l'Église ceux qui sont sauvés, ces 3000 autres, alors ils vont partager cette même foi. Et ces nouveaux seront encouragés par les plus anciens. Et ça nous montre aussi notre responsabilité. Donc une bonne église, et une église en bonne santé, est une église où les membres aiment être ensemble, et persévèrent ensemble dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et lorsqu'on est une église en bonne santé... Les jeunes baptisés reproduisent ce que font les plus anciens. Donc on a des personnes qui sont là depuis un certain temps, qui sont des modèles pour les plus jeunes, qui donnent l'exemple aux plus jeunes. Et donc ça permet une bonne intégration des nouveaux. Et donc pour nous qui sommes là depuis un certain nombre d'années, nous devons veiller à être de bons modèles pour les plus jeunes. Pour les nouveaux convertis, pour ceux qui viennent de se faire baptiser. Et on doit donner l'exemple. En tout cas, c'est ce qu'ils ont fait là. Et le texte nous dit qu'ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Et dans la version semelle, il traduit « Et le peuple tout entier leur était favorable. » pour dire que à Jérusalem, les gens étaient bien disposés vis-à-vis de ces chrétiens, tout simplement parce qu'ils faisaient ce que le Seigneur leur demandait. Et donc, ils avaient donc un bon témoignage auprès des inconvertis. Le nombre de disciples continuait à augmenter. Ça montre qu'il y avait donc une bonne croissance du nombre de membres de l'Église. Ça aussi, c'est signe d'une Église en bonne santé, que le Seigneur ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Mais je me dis toujours que, est-ce que le Seigneur va ajouter dans une Église une personne s'il sait que cette personne ne va pas pouvoir progresser dans cette Église? Si cette Église n'est pas en bonne santé, si elle est malade à cause du péché, à cause de pas mal de choses, est-ce que Dieu va mettre son enfant dans une église où il y a, où ça va pas? Je pense pas. Et ce qui traduit une église en mauvaise santé, c'est justement le nombre de membres n'augmente pas. Et lorsqu'on fait tout pour que le nom du Seigneur soit glorifié, le Seigneur ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Donc, personnellement, je ne m'inquiète pas pour cet aspect-là, du fait d'ajouter. Je sais que le Seigneur va ajouter. Si moi, au départ, je fais attention d'être moi-même en bonne santé et que l'Église soit en bonne santé, après le reste, le Seigneur fait. Une Église en bonne santé, c'est une Église où on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Et dans Actes chapitre 6, ils avaient besoin de personnes pour s'occuper des choses plus matérielles. Donc, ils avaient besoin de diacres. Et il dit, mais cherchez parmi vous des hommes remplis de Saint-Esprit, etc., pour pouvoir, à qui on pourrait confier ces tâches. Et ils n'ont pas eu de mal à trouver dans cette église, cette jeune église, ils n'ont pas eu de mal à trouver des hommes remplis du Saint-Esprit. Il y avait Étienne et d'autres. Et c'est ça, aussi ça, frères et sœurs. Donc, lorsqu'on fait attention à notre enseignement, lorsqu'on fait attention à privilégier la communion fraternelle, la prière, l'étude de la parole de Dieu, on progresse spirituellement. Et lorsqu'il y a des besoins dans l'Église, on trouve les personnes qui répondent à ces critères bibliques, à qui on va confier des responsabilités. Et c'est ça le problème aussi de notre Église. Je parle de l'Église du 21e siècle. C'est que malheureusement, c'est très difficile de trouver des personnes à qui on va confier telle ou telle responsabilité de diacre, d'ancien, parce qu'il n'y a pas de progression. Donc que le Seigneur nous aide à vouloir continuer à progresser pour être en meilleure santé, que Dieu fasse son œuvre dans nos cœurs et que nous puissions accomplir l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Et l'apôtre Paul, il disait aux chrétiens de Thessalonique, ce qu'il leur demandait, c'était de continuer à progresser dans l'amour. Dans Thessaloniciens chapitre 4, verset 9, il dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Voilà, que le Seigneur nous aide en cela. Et que nous puissions continuer à avancer avec lui, à être une église en bonne santé, en tout cas ça c'est mon vœu, pour nous, pour cette année, les années à venir, pour la gloire de notre Dieu, pour que lorsque notre Seigneur paraîtra, qu'il trouve cette église glorieuse et sans tache. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.